Renaud Alberni, André Lenôtre. Si ça continue, vous allez voir qu'ils vont écraser ces belles plates-bandes. Qui donc oserait commettre un semblable crime? Mais tout le monde, voyons. Louis XIV, la reine-mère, monsieur le frère du roi, mesdemoiselles ses sœurs, et puis les princes, les grands seigneurs, les petits seigneurs, les officiers de la cour, les secrétaires d'État, bref, tout ce que le Louvre compte de particules plus ou moins glorieuses venues en ce 17 août 1661 admirer le château tout beau, tout neuf de Monsieur Fouquet, le château de Vaux le Vicomte, admirer le château du surintendant des finances, c'est ce qu'ils prétendent. En réalité, ils ne sont venus que dans un seul but, piétiner les belles plates-bandes de Lenôtre. Ah, c'était bien la peine qu'ils se décarcassent. Tiens, même Louis XIV a remarqué que l'on ne respectait pas les plates-bandes. Lenôtre l'a vu faire une grimace qui ne trompe pas. Il est sûr que tous les deux se comprennent. Ce ne sont pas des manières de se comporter ainsi. Fouquet, lui, ne s'aperçoit de rien. Paré de sa perruque du dimanche et de son habit le plus chic, il semble marcher sur un nuage, alors qu'il ne foule qu'un parterre de lys. Il devrait, tout de même, faire attention. C'est tout Fouquet, ça. Il dépense des millions et encore des millions pour se faire construire un véritable palais et il ne regarde même pas où il met ses pieds. Qu'il cesse maintenant de pérorer et de parader, qu'il ramène tous ses invités à l'intérieur du château où un somptueux souper les attend. Ne voit-il pas les langues pendantes et les faces congestionnées? Ce ne sont pas simplement des signes manifestes de jalousie. Ce sont aussi de simples réactions physiques à la terrible chaleur de cette journée. Certes, le soleil se couche, mais il a poussé les feux tellement à vif que la fournaise ne cède le pas que devant une étuve. Certains ont le gosier si sec qu'ils ne se retiennent qu'à grand-peine de la paix aux margelles des fontaines. Le rafraîchissement offert tout à l'heure, au moment de l'arrivée de Sa Majesté suante et cramoisie, semble maintenant bien loin. On s'est extasié devant la merveilleuse architecture dessinée par Louis Le Vau. On a longuement visité les riches appartements décorés par André Lebrun. Puis on est sorti dans le jardin, œuvre de Lenôtre, André Lenôtre, jardinier, fils de jardinier, petit-fils de jardinier, pour vous servir. Oui, oui, André le sait bien, le parc qu'il a dessiné est un véritable chef-d'œuvre. Mais à présent que l'on a fait le tour des superlatifs, pouvant qualifier les broderies de buis, les tapis de fleurs, les alignements d'ifs, les canaux, les bassins, les grottes et les cascades, à présent, on pourrait peut-être arrêter de saccager les plates-bandes. On a fait le tour du propriétaire. On a vu que c'était sublime de bout en bout. Ça y est, maintenant on a compris. Fouquet est certainement la plus grosse fortune du royaume. Bravo, bravo, mais qu'attend-il encore? On dirait qu'il ne se lasse pas d'en mettre plein la vue du roi. Eh bien non, il ne s'en lasse pas. Après la féerie des eaux, c'est parti pour une féerie de lumière. D'un seul coup, d'un seul, 1000 torches, 1000 flambeaux, 1000 lampions éclairent statues et charmilles, allées et terrasses, luxe et démesure. On s'exclame, on applaudit, on n'en croit pas ses yeux, mais pourtant c'est comme ça. Le château de Vaux-le-Vicomte brille de milliers et de milliers de feux. Rien ne surpassera jamais l'éclat de cette fête. Les violons de Lully se taisent. C'est la ruée sur le buffet, plus exactement l'ambigu, ainsi qu'on nomme alors ce style de réception. Tandis que l'épée sur le côté, Vatel, le grand Vatel, cuisinier hors pair et responsable de l'ensemble de la réception, dirige des bataillons de marmitons et des régiments de serviteurs. Le nôtre reste dans le jardin. Enfin seul, seul avec son jardin et les quelques centaines de petites mains qui, sous ses ordres, vont tâcher de réparer vite fait tous les dégâts commis par la horde courtisane. Là-bas, dans le potager, son amie, la Quintini, spécialiste parmi les spécialistes de la culture des légumes et des arbres fruitiers, s'emploie également à effacer les traces du passage du cortège royal parmi ses fraises, ses salades et ses melons. De son côté, Molière surveille la multitude de bras qui, dans l'allée des sapins, achève de monter la scène du théâtre sur laquelle il doit jouer après le souper. Pas un instant à perdre. Ils sont toute une armée à s'activer pour que tout soit prêt lorsque, rassasié et humecté, le troupeau emperruqué regagnera les jardins. Comédie, machinerie époustouflante, embrasement final. N'en jetez plus, la cour est pleine. Louis XIV fait rouler les tambours. Il est l'heure de partir. On raccompagne tout ce beau monde jusqu'à leur voiture, quand subitement, alors que l'on pense la fête achevée dans un splendide bouquet final, subitement, c'est l'apothéose. Violons et jets d'eau poussés à fond. Château et jardin s'embrasent dans une débauche d'artifice qui laisse tout le monde pantois. Roulant carrosse, Louis XIV prend trois décisions simultanées. 1. Il va faire arrêter Fouquet. 2. Il veut un plus beau château que ce petit-fils de boutiquier. 3. Il va demander à Levaux, Lebrun, la Quintini et le nôtre de lui en construire un me-me à Versailles. André le nôtre a encore bien du souci à se faire pour ses plates-bandes. Innocent V a beau être pape, il n'est pas bêcheur. Il vous reçoit gentiment chez lui en cette belle année 1679. Vous relève à peine, vous êtes-vous agenouillé et aussitôt vous demande à quoi ressemble Versailles. Comment, vous ne connaissez pas Versailles? Stupéfait, André le Nôtre contemple le pape Innocent V avec de grands yeux étonnés. Un homme de la culture d'Innocent ignorait ce pur joyau du XVIIe siècle? Ce n'est pas Dieu possible! Un simple et humble jardinier ne peut se permettre de donner un conseil au souverain pontife, mais tout de même, il devrait venir jeter un coup d'œil. Franchement, il ne regrettera pas le voyage, ça vaut le déplacement. S'il n'en tenait qu'à lui, le nôtre inviterait le très Saint-Père pour une petite escapade de quelques jours à Versailles. Malheureusement, André ne peut se comporter chez Louis XIV comme s'il était chez lui. Il est venu à Rome pour prendre livraison d'une statue équestre du roi Soleil et non pour ramener une délégation vaticane dans ses bagages. Innocent le comprend bien et abaisse une tiare indulgente vers le visage désolé du jardinier. « Allons, allons, ce n'est pas la faute de le nôtre. Le pape ne lui en veut pas. Il lui pardonne, à condition toutefois qu'il se décide enfin à lui dire à quoi ressemble Versailles. » Le nôtre cherche l'inspiration. « Versailles, Versailles, imaginez, le plus triste et le plus dénudé des lieux, dépourvu de perspectives, d'eau et de bois. Imaginez un petit vallon marécageux, une terre gorgée d'eau, quelques pièces de céréales et de pâture. Imaginez un château féodal en ruine, un prieuré, une église dédiée à Saint-Julien, quelques auberges de rouliers, une maison de justice et une geôle, formant tant bien que mal un bourg obscur. Imaginez tout ceci et vous aurez une petite idée de Versailles. Interloqué, Innocent V ne comprend pas. On lui a toujours dit que... André ne le laisse pas terminer sa phrase. Imaginez l'endroit le plus vilain du monde et vous aurez une petite idée de ce qu'était Versailles avant que Louis le XIVe ne décide d'y construire son château. De vous à moi, monsieur le pape, Fouquet peut bien aller se rhabiller avec son veau le vicomte. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Question splendeur, désormais, le roi se pose là. À l'origine, Versailles n'était qu'un rendez-vous de chasse appartenant à Louis XIII, un petit château de cartes, ainsi que la firme Saint-Simon, un pas grand-chose construit sur une petite butte où, auparavant, tournaient des moulins. Enfant, Louis XIV venait y chasser avec son père. Depuis, il est toujours resté profondément attaché à ce lieu, loin de Paris, loin de la fronde, loin de l'omniprésence de la reine-mère. En 1661, histoire de bien montrer qui était le roi, il a décidé de construire une résidence d'un autre standing qu'un pavillon de banlieue, fut-il de chasse. Ni une ni deux, il a mis au travail toute l'équipe qui avait fait de vous le vicomte une référence en matière de sublime. Leur mission? Faire encore mieux. Depuis 18 ans, le nôtre se consacre corps et âme aux jardins royaux. Qu'on le damne s'il en existe de plus beau. Le nez sur le plan et les dessins que lui présente André, Innocent fait largement partager la béatitude que lui inspire une telle création, avant d'interroger son auteur. Comment a-t-on pu réaliser un tel prodige? Le nôtre se rengorge. Prodige, prodige! N'exagérons rien! Avec quelques centaines de millions et quelques dizaines de milliers d'ouvriers, on fait beaucoup de choses de nos jours. On remue des quantités astronomiques de terre. On arrase des monticules. On élève des terrasses. On comble des marais. On cure des étangs. On bâtit des canaux, des kilomètres et des kilomètres de canalisation. Et un de ces jours, on détournera le cours de l'Eure pour alimenter les grandes eaux de Versailles. Bon public, le pape s'exclame. Sans blague, n'allez pas me dire que Versailles n'est pas encore achevé. Achevé? Le souverain pontife veut rigoler ou quoi? Ça se voit qu'il ne connaît pas Louis XIV. Il ne se passe pas un jour sans qu'il ne décide de rajouter une aile par ici, une orangerie par là, quand il ne se pique pas de faire pousser une véritable forêt. André n'exagère pas. Le roi a fait prélever des milliers d'ormes, de tilleuls, de chênes et de hêtres de gros diamètre dans ses domaines de Compiègne et de Normandie pour les replanter à Versailles. En fait, c'est tout le problème d'emménager dans du neuf. On est pressé d'occuper les lieux et il reste toujours quelques bricoles à terminer. Sa sainteté ne peut pas comprendre. Elle vit dans de l'ancien. Innocent hoche la tête avec compassion, puis, très civil, s'inquiète. « Au fait, mon cher, comment trouvez-vous le Vatican ?»«
Le Vatican ? Très beau, très bien, très intéressant, quoique, sans vouloir vous vexer,
les jardins ne sont franchement pas terribles. »
D'ailleurs, c'est le problème à Rome. Vous autres Italiens, vous êtes très forts pour les places, les fontaines, les statues, mais pour ce qui est des jardins, honnêtement, vous ne cassez pas trois pattes à un canard. Innocent V reste un instant abattu par cette terrible révélation, puis se tourne vers André comme vers le sauveur.
Ne voudriez-vous pas refaire les jardins du Vatican ? Je vous en prie.
Le nôtre ne contrôle pas sa joie. Il attrape le pape par les épaules et lui plante un gros baiser sur la joue. Que voulez-vous, quand on est nature ?
Suivez le guide. En sortant du château par le vestibule de la cour de marbre, on ira sur la terrasse. Il faut s'arrêter sur le haut des degrés pour considérer la situation des parterres, des pièces d'eau et les fontaines des cabinets.
Louis XIV parle. André le Nôtre écoute. Ils ne sont que deux, assis chacun sur une roulette, un engin moitié chaise roulante, moitié brouette, poussé par de robustes gardes suisses. Légèrement en avant le roi, un poil de perruque en arrière, le jardinier.
Fier comme un paon, le nôtre roucoule.
Diable, ce n'est pas tous les jours qu'un roi de France vous offre une visite privative de ses jardins. Cela vaut le coup d'avoir vécu 87 printemps pour avoir droit à cet insigne privilège.
Imperturbable, Louis XIV continue de faire l'article.
Il faut ensuite aller droit sur le haut de la tonne et faire une pause pour considérer la tonne, les lézards, les rangs, les statues, l'allée royale, l'Apollon, le canal. Et puis se tourner pour voir le parterre et le château. Docilement, les Suisses tournent les roulettes et, comme annoncé, André voit le parterre et le château.
Alors, qu'en pensez-vous, mon bon le nôtre ?
Le brave jardinier lève les bras au ciel. Effectivement, la vue est magnifique. Mais à vrai dire, il n'est pas étonné. Il connaît déjà.
Un brin agacé, Louis-France les sourcils.
Comment ça, vous connaissez ? Vous êtes le premier auquel nous donnons lecture du manuscrit du guide des jardins de Versailles que nous sommes en train d'écrire. Vous êtes le premier à suivre le parcours exact que j'ai déterminé pour profiter au mieux des perspectives et des merveilles que recèle mon château. Nous nous connaissons depuis longtemps, le nôtre. Franchement, dites-nous si quelqu'un vous a déjà montré Versailles aussi bien que nous. Dites-nous si quelqu'un connaît mieux ces jardins que nous.
Toujours vert, André s'agite dans sa chaise roulante.
Si Louis XIV veut de la franchise, il va en avoir.
Certes, Sa Majesté connaît bien son jardin, mais il est quelqu'un qui le connaît encore mieux que lui.
Louis XIV, 62 ans, bondit de sa brouette.
Quel est cet impudent ?
Moi ?
Vous ?
Puisque je vous le dis.
Les poings sur les hanches, Sa Majesté le roi de France en a le souffle coupé.
Comment oser affirmer une semblable faribole ? Chacun sait bien que nul ne porte autant d'intérêt à son jardin que Louis XIV.
Le nôtre ne se démonte pas.
Taratata, mon bon roi, taratata. Bien sûr que vous portez de l'intérêt à votre jardin. Vous y portez même tellement d'intérêt que lorsque vous partez à la guerre, vous me faites venir sur le front, exprès pour que je vous parle de l'état de vos plantations.
Et pourquoi vous me faites venir, moi ?
Tout simplement parce que nul ne peut vous en parler aussi bien que moi.
Enfin, si vous voulez savoir le fond de ma pensée, ce jardin n'est pas simplement votre jardin. C'est aussi mon jardin. Après tout, c'est moi qui l'ai conçu, dessiné, réalisé dans ses moindres détails.
Louis XIV gronde.
Mais pendant que vous y êtes, vous n'avez qu'à dire que je n'ai jamais mis le nez dans ce jardin.
le jardinier ricane. Malheureusement, il ne peut affirmer une chose semblable. Dieu est témoin que Louis XIV n'a pas fichu la paix une seconde à le nôtre. Planté par ici, semé par là, taillé, bêché. Oh oh, André connaît son métier. Quand il était jeune, il voulait être peintre. C'est pour ça qu'il a fréquenté l'atelier de Simon Vouet, découvrant l'art de la composition et les lois de la perspective avant de s'initier à l'architecture et de prendre la succession de son père, jardinier en chef du roi, spécialement chargé des deux grands parterres à la face du grand pavillon des Tuileries, ce qui n'est pas une mince responsabilité. Premier jardinier de Monsieur le frère du roi, dès 1635, il y a maintenant 65 ans, qu'il cultive l'art du jardinage. Des jardins, il en a dessiné à la pelle. Vaux-le-Vicomte, Versailles bien sûr, mais aussi Meudon, Chaville, Saint-Germain, Fontainebleau, Saint-Cloud, Chantilly et tant d'autres encore. Louis XIV proteste. À chaque fois qu'il se dispute avec le nôtre au sujet de Versailles, c'est la même chose. Il faut qu'il lui ressorte la litanie des chefs-d'œuvre qu'il a réalisés. C'est bon. Le roi n'ignore pas les mérites de son jardinier. Il lui a même donné des lettres de noblesse en signe de reconnaissance. D'ailleurs, à cette occasion, André a prétendu posséder déjà ses propres armoiries. Trois limaçons couronnés d'une tête de chou. Le nôtre peut se permettre bien des familiarités avec Louis XIV. Et il le sait. Il peut même spontanément continuer à l'embrasser quand ça lui chante. Le roi lui en est gré. Sa gratitude deviendrait immense si son jardinier acceptait enfin de reconnaître que Louis a le droit de se mêler de son jardin. Inflexible, André secoue négativement la tête. Depuis qu'il est démis de sa charge de contrôleur des bâtiments du roi, il n'est plus rien qu'un vieil ami de Louis, son bon roi, à qui, entre quatre yeux, il peut bien se permettre de dire qu'il n'a qu'un seul défaut, mais alors un très gros défaut, celui de vouloir marcher sur les plates-bandes de son jardinier. Pestant contre tant de mauvaise foi, Louis le XIVe, ci-devant roi soleil, réintègre sa roulette et, contrarié, reprend le fil de sa visite. Il faut tourner à gauche pour aller passer entre les sphinx. Allez, suivons le guide. Note. Louis XIV rédigea effectivement, mais un peu plus tard, entre 1702 et 1704, un guide de visite des jardins du château de Versailles en 25 étapes. Peut-être l'émotion, le nôtre ne survécut que très peu de temps à la visite privative que lui offrit réellement le roi et s'éteignit le 15 septembre 1700. Né le 12 mars 1613, il avait 87 ans. D'après le Queen, Versailles a reçu 4 211 000 visiteurs en 1991. Toujours selon la même source, en 1993, la location à la journée de l'Orangerie de Versailles, œuvre de Mansart, valait 300 000 francs. Fin du texte de Renaud Alberni, André Lenôtre.